the machine becomes so odious, makes you so sick at heart, that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans votre fréquence libre, on reçoit un artiste dont on parle pas très souvent et c'est dommage, on va rattraper le coup. Alors je tiens à préciser quand même qu'au jour où on enregistre l'émission, c'est vendredi 19 septembre, il est 17h et au même moment mes collègues sont partis au festival des Modou pour interviewer Amélie Nothomb, donc quant à moi je suis content d'être tout seul en studio avec un vrai écrivain. Bonjour Tristan Ederne Vaquette.
Bonjour, quelle présentation, c'est vrai que comparé à Amélie Nothomb c'est pas trop dur de faire vrai écrivain.
Oui, voilà. On parle bien sûr du talent, hein, pas du chiffre des ventes. Mais ça va être un des sujets de nos émissions. C'est bien, on commence fort, comme ça les auditeurs s'habituent.
On parle ni du chiffre de vente, tu veux dire, ni du nombre de pages.
Oui, voilà.
Dans les deux cas d'Amélie Nothomb, c'est de la pure poésie. Ça, c'est la seule grâce qu'elle a, ces deux choses. C'est incroyable, quoi. Réussir à vendre des nouvelles de 22 pages écrites en gros caractères comme étant des romans et faire croire à tout un lectorat que c'est de la littérature, c'est très fort.
C'est merveilleux. Déjà, rien que là, je pense qu'il y a des cris d'orfraie de l'autre côté du poste, mais les auditeurs sont habitués. Je leur fais d'ailleurs des gros bisous. Tristan, en première question aujourd'hui, bon, partons du principe que les gens ne te connaissent pas. Ce qui m'intéresse pour démarrer cette émission, c'est de parler d'un parcours atypique qui est le tien. T'es un garçon brillant, t'es diplômé de Normal Sup, tu aurais pu, d'ailleurs tu as validé je crois le diplôme à être physicien au Collège de France, et à la place tu as choisi de devenir artiste performeur, un peu punk, un peu provoque en apparence, mais avec beaucoup plus de profondeur derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour démuter cette semaine qu'on va passer ensemble, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?
Oui, ça c'est en fait assez simple, c'est une question qu'on se pose tous... à peu près à ces âges, on peut se la poser un peu plus tôt, on peut se la poser éventuellement un peu plus tard. La plupart des gens qui se la posent passent pas forcément à l'acte, mais à un moment, tu te demandes, quand tu as une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, quoi. C'est forcé. Moi, j'avais eu un parcours scolaire assez brillant, comme tu l'as signalé, mais à la fois aussi chaotique. Cette question, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur, bon... Comme tout le monde, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, j'imagine que les choses n'ont pas beaucoup changé, t'es bon à l'école, bon, t'es bon, tu fais maths sup, maths spé, école d'ingénieur, toutes ces choses-là, le circuit normal. J'étais extrêmement malheureux et j'arrivais pas bien à faire le lien entre le fait que j'étais en école d'ingénieur et que j'allais bientôt porter une cravate, une mallette et que j'allais devenir ingénieur et le fait que j'étais très malheureux. Mais j'étais très jeune, hein, moi j'ai mon bac en avance, tout ça, donc je suis rentré en école d'ingénieur à 17 ans. Bon, un petit peu plus tard, quand je me suis retrouvé à Normal Sup, j'étais un petit peu plus vieux, j'avais fait d'autres choses, donc j'étais plus en état de me poser les bonnes questions. Et je dois dire que cette vie de physicien, elle est fabuleuse. Jamais personne n'a entendu en dire du mal de ce milieu, de tout ça. C'est des gens beaucoup, beaucoup plus ouverts que la moyenne. C'est un boulot qui est passionnant, c'est un boulot qui m'aurait... plus convenu, parce qu'il faut de l'imagination, un peu de, entre guillemets, ce qu'on appelle un peu vulgairement de la folie. C'est pas du tout c'est un boulot beaucoup moins, c'est un boulot très rationnel, mais c'est un boulot aussi où il faut de l'imagination, des choses comme ça. Et puis, dans un milieu qui est pas, les 3-8, on n'avait pas de pointeuse, enfin, on venait, surtout moi, je me destinais à la physique théorique, donc la physique théorique, le but c'est de réfléchir tout seul dans son coin, il y a personne qui est là pour voir si t'es venu bosser, donc, de ce point de vue-là, ça aurait été bien, mais j'ai compris aussi, que qui j'étais profondément, ça collait pas. Il y a toute une partie de moi qui est effectivement ce côté dandy, extraverti, provo, et de toute façon quelqu'un qui aime profondément la forme. C'est pour ça que je suis arrivé à faire mon boulot qui serait insatisfait et que j'allais me retrouver à 40 ans avec un bon salaire, un bon boulot intéressant, une vie super et que tous les soirs j'aurais mal au ventre sans bien comprendre pourquoi, quoi. Je caricature, mais disons qu'à l'époque c'est ces mots-là que je mettais et j'ai eu la lucidité de voir que je sais pas si je serais heureux en faisant le boulot que j'ai fait, pensais-je alors. Mais en tout cas, j'avais la certitude que si j'allais pas être très très malheureux en restant physicien, j'arriverais jamais à être tout à fait heureux, quoi, que c'était pas mon truc. En plus de ça, c'est ajouté une deuxième chose qui est assez liée. J'aurais eu l'impression un peu d'être d'un profiteur et un traître par rapport. Il y a très peu de place en sciences, en tout cas en physique, mais je pense que c'est la même chose pour les autres sciences, pour avoir un boulot en France, c'est pour ça que beaucoup de jeunes diplômés s'expatrient, avoir le privilège parce que j'étais plutôt brillant, que j'étais passé par Normalsup, parce qu'il y a quelques chercheurs qui m'aimaient bien, d'avoir une place que j'aurais mérité, mais que je ne méritais pas au quotidien, parce que j'aurais pas fait le boulot avec la passion de celui qui vit pour ça, j'avais pas la passion pour la physique. J'aurais eu l'impression un petit peu de voler mon monde, et j'en ai vu, hein, moi, beaucoup, quelques-uns en labo, des gens qui faisaient leurs 4 heures de cours obligatoires, qui faisaient semblant de mettre les pieds dans des labos, qui signaient les publications grâce à de la complaisance de potes et qu'ils offraient des bouteilles de vin, et puis qui, dans la pratique, prenaient leur salaire relativement élevé, enfin même très élevé vu l'état salarial de la France, et qui ne faisaient jamais le travail. Bon, pourquoi pas, je leur jette pas la pierre, hein, chacun mène sa vie comme il veut. Moi, je me serais pas non plus senti très très à l'aise Donc tout ça, c'était une question de cohérence vis-à-vis de moi et de là où j'avais le sentiment qu'était ma place et ce pourquoi j'étais fait. Et j'avais le sentiment, et l'avenir m'a donné raison là-dessus, j'aurais sans doute pas fait un mauvais physicien, mais j'aurais jamais mis la foi, l'énergie et la... J'ai l'impression d'être à ma place, même si comme tu l'as signalé en filigrane plusieurs fois, la société ne semble pas exactement le penser. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que si c'est pas moi qui écrivais mes bouquins, si c'est pas moi qui faisais mes disques ou mes spectacles, personne les ferait comme ça. Ça veut pas dire que Amélie Nothomb fait pas aussi bien. Bon, si, d'accord, Amélie Nothomb, c'est un mauvais exemple. Mais ça veut pas dire que d'autres personnes pourraient peut-être pas faire des bons livres aussi, admettons. Mais en tout cas, mes livres que j'écris, moi, il y a que moi. J'ai pas le sentiment qu'en physique, j'aurais jamais pu amener cette... j'aurais jamais eu le sentiment que j'allais devenir Feynman, quoi.
En même temps, d'après ce que je sais de toi, quand on fait ses recherches sur ton travail, t'as au moins gardé ce côté du scientifique dans ta démarche, c'est-à-dire beaucoup de travail en amont, une certaine minutie, attacher beaucoup d'importance aux détails, et même si la forme, tu l'as dit, est provocante, hein, on expliquera dans d'autres émissions les jours prochains, qu'est-ce que tu fais exactement et comment tu le fais, mais sous couvert de provocation et puis d'être habillé en rouge avec les cheveux dressés en l'air, etc., faut voir à travers ça. Derrière, il y a quelqu'un qui travaille comme un scientifique, qui passe des heures et des heures et des heures sur une ligne, sur une blague, sur... C'est plus ça qui ressort de ton travail. Je pense notamment à ton morceau de musique d'une demi-heure que tu as mis des mois à produire, etc.
Oui, mais de toute façon, on sort pas de ce système de formation, d'autant plus à cet âge-là, en sortant indemne. Je veux dire, moi, j'ai été dressé par... évidemment par ces systèmes, ce système élitaire français, mais élitaire dans le bon sens, dans le sens où il y avait une volonté d'excellence, on t'en demandait beaucoup, tu sors pas de Normalsup en étant tout à fait sain d'esprit, mais je dis tout ça pour rire.
Un conditionnement obligatoire.
Voilà, mais enfin, le conditionnement, moi je pense y avoir relativement échappé, c'est-à-dire que j'ai vu des gens à Normalsup qui étaient très cons. Donc, ils étaient enfermés dans un conditionnement, ils pensaient qu'ils étaient faits pour diriger le monde parce qu'ils étaient l'élite, alors qu'en fait, ils venaient juste de la bourgeoisie, et que c'est ça qui les avait emmenés là, en étant un petit peu moins nuls que leurs petits camarades, mais ils avaient été dressés à ça depuis le plus jeune âge, parce que ce que tu as oublié de préciser, c'est que moi, aucun de mes parents n'a même le certificat d'études, personne dans ma famille, je crois qu'il y a mes très nombreux cousins et cousines, et toute la fratrie, tout, il y a deux personnes qui ont le bac qui sont arrêtées là, donc sur beaucoup, beaucoup. Que je suis né dans une H&M de banlieue est parisienne, j'ai pas grandi du tout dans la bourgeoisie culturelle qui se reproduit en donnant les codes à ses enfants. Donc c'est aussi pour ça que je la ramène tellement ma gueule là-dessus, c'est qu'il y a un côté pas miraculeux, il n'y a vraiment rien de miraculeux, mais il y a un côté vraiment de valeureux et de chouette, une vraie aventure humaine d'être passé là-dedans. Donc pour, en tout cas, ça, c'est une digression, mais je ne veux pas donner l'impression juste de quelqu'un qui a produit un modèle, parce que c'est tout ce que j'essaie de ne pas faire dans ma vie. Voilà, c'est une digression. Donc pour revenir à ça, il est évident qu'après, moi, toutes mes années passées en physique m'ont construit, m'ont pas enfermé dans quelque chose, mais m'ont construit et m'ont apporté des choses. Et je regrette rétrospectivement surtout pas de ne pas avoir fait d'études de lettres ou de choses comme ça, qui justement pourraient parasiter mon travail, parce que ça m'apprendrait des modèles que j'aurais peut-être envie de reproduire, alors que... le métier, entre guillemets, d'artiste, c'est de reproduire rien, c'est de chercher sa singularité à soi et d'aller voir toujours ailleurs, on ne sait pas, donc c'est bien de ne pas savoir trop de choses. La culture en art peut être un handicap autant qu'une force. Tu le vois avec tous les écrivains, entre guillemets, français, qui sont profs de français. Et c'est terrible, quoi. Tu vois le prof de français avant de voir éventuellement un écrivain.
Oui.
Et néanmoins, voilà, à côté de ça, avoir fait des études de physique, c'est-à-dire de quelque chose qui m'ont construit l'esprit, qui m'a appris la rigueur, la rationalité, probablement le travail, bon, je regrette pas, et ça a été évidemment très important pour moi. Bon, même si effectivement tout ça est d'autant plus riche et intéressant que je m'en suis sorti, voilà.
Il nous reste 3 minutes pour aujourd'hui. Ça me fait penser à un petit truc, je voulais t'en parler, une petite phrase de Jack London qui dit, parce que ça me fait penser un peu, ton parcours me fait penser un peu à lui, « Socialement parti de bas, monté très haut, et le choix derrière de redescendre avec cette petite phrase, de redescendre, je me comprends, hein, socialement par rapport à ce que pensent les gens en général, avec cette petite phrase où il nous dit « j'ai très vite compris que je supportais pas l'étage des salons de la société, parce qu'intellectuellement je m'y ennuyais à mourir et que moralement ça me donnait la gerbe ».
Ouais.
Tu te reconnais là-dedans ou pas ?
Non, en fait, moi, je veux pas faire crari, comme on dit en banlieue. Je veux pas me la péter. Là-dessus, moi, je n'ai jamais, je tiens vraiment à être honnête avec tout le monde et surtout avec moi, j'ai jamais, quand j'ai quitté le Collège de France et tout ça, j'ai jamais pensé que j'allais descendre socialement. C'est-à-dire, la seule chance que j'ai, moi, par rapport à certains de mes camarades que je peux connaître, qui sont nés dans les hautes sphères, et qui développent une névrose très violente et très douloureuse du déclassement quand tu fais nos boulots et dans nos milieux. Mmh. Moi, l'avantage, c'est que de toute façon, j'ai été, arrivé là, surclassé socialement. Je veux dire, je suis monté au-dessus de ce que tout sera jamais ma famille. Donc après, le problème du déclassement s'est jamais posé. Mais j'ai jamais pensé, quand j'abandonnais le Collège de France, tout ça, que j'allais me déclasser socialement. Moi, je pensais au contraire devenir Rosta au bout de 5 ans et me surclasser par rapport à mes camarades physiciens et rire en disant « Vous avez vu d'où je suis parti ? Après, j'ai fait Normal Sup et maintenant, je suis le plus grand écrivain français trop connu. Je suis la Mélie Nothomb. Rire. Donc, le déclassement m'est tombé dessus. Je l'ai assumé de fait. Je le porte de fait et je vais pas dire que je m'en plains pas, je passe mon temps à m'en plaindre, donc ça serait malhonnête, mais je le porte et ça m'a pas fait changer ma ligne et ça m'a jamais fait baisser les yeux, mais je peux pas dire que j'avais la lucidité à l'époque de dire « Ok, avec courage, maintenant je vais me déclasser ». Je m'en suis rendu compte après, un peu naïvement, mais c'est le sens du... On va aller vite puisqu'il ne doit plus rester grand-chose, mais c'est le sens de mon bouquin. C'est un des nombreux sens de mon bouquin, je gagne toujours à la fin. Le monsieur, il ne pense pas qu'il va se déclasser et qu'il va mal finir à la fin du roman. Il est sûr qu'il gagne toujours à la fin. Il est d'une naïveté et d'une confiance en l'avenir et en lui-même.
C'est beau aussi.
Un garçon incroyable. Et c'est moi, et en tout cas moi à cet âge-là, oui, je pensais vraiment pas me retrouver comme un chien déclassé dans l'underground le plus radical. Je pensais justement, mais je vais essayer d'aller vite, que Normal Sup, moi, ce que ça m'avait appris, c'est que même en faisant pas du sérail, si on était meilleur que les autres, on avait naturellement une bonne place. Moi, les physiciens qui étaient là-bas me disaient « T'as de l'imagination, t'es brillant, tout ça, reviens avec nous dans notre labo, t'es vachement bon. » On m'a jamais dit « Ah non, mais toi, t'es né dans une mauvaise famille ou t'habilles en rouge, t'es bizarre, tu viens pas dans mon labo, pas du tout. » Donc je pensais que c'était comme ça, la vie. Je pensais que quand on était bon, il y avait une place pour les bons. Et après, plus tard dans la vie, j'ai découvert la vraie société. C'est pour ça que c'est un îlot que j'aime beaucoup, la physique. Parce que moi, ce que j'y ai connu à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était des gens ouverts d'esprit qui ne sont pas limités. Et j'ai appris plus tard en montant que la société est complètement une société de caste limitée, où il faut largement autant aller sucer des bites et montrer patte blanche tout le temps, que d'être bon. Donc que tu écrives un bon bouquin, c'est bien. Mais Amélie Nothomb, c'est pas parce qu'elle écrit des bons bouquins qu'elle est là. C'est pour d'autres raisons, tout le monde le sait bien. Mais Amélie Nothomb, on est parti là-dessus. Je ne veux pas faire une obsession sur elle, je m'en fous.
Non, parce que j'ai pas les moyens d'encaisser le procès qu'elle va nous faire, de toute façon, sinon s'il nous écoute. Mais on continue cette discussion demain, parce que le temps nous est compté. Mais on reste là-dessus, je pense que ça aura au moins accroché les auditeurs. On se retrouve demain à la même heure, Christian.
À demain.
À demain.